Eh bien, mes amis, dans ce petit instant que j'ai eu dans la solitude, je me suis rendu compte que je n'ai pas donné, en lisant à la page 11, toutes les définitions. Enfin, la scène, vous le savez, la Sainte Cène aussi, la communion, nous l'avons encore le voir, la table du Seigneur encore, l'Eucharistie, c'est des mots que vous pouvez employer, mais en comprenant le sens profond de ce mot, la fraction du pain, rompre le pain, et puis même la messe, n'est-ce pas? On aurait pu en parler, et d'où vient ce mot messe, qu'on a confondu aussi avec Eucharistie? Eh bien, il semblerait, il y a beaucoup de discussions là-dessus, que c'était ite missa est, hein? C'était la messe est terminée, et alors bon, messe est devenue Eucharistie, et puis maintenant ben, beaucoup vont à la messe sans prendre l'Eucharistie, alors ils assistent simplement. Alors vous avez les gens qui sont croyants, mais qui assistent, mais qui ne sont pas pratiquants, et tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas entrer dans tout cela, soit que quelqu'un m'a dit tout à l'heure que, étant Québécois, il est très intéressé par l'historique de tout cela. Et alors, si quelqu'un a été intéressé un petit peu par les quelques mots d'histoire que j'ai essayé de vous donner, eh bien, loué soit le Seigneur, mais je ne veux pas, moi, vous enseigner. Ce que je vais vous enseigner, c'est d'abord la Bible, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas avoir peur des mots, puis essayer de trouver d'où viennent ces mots. Et puis, ne pas opposer les mots, mais voir ce qu'il y a derrière ces mots. Parce qu'une personne peut vous dire, moi je vais à la messe, et puis elle est peut-être très sincère, et très croyante, comprenez-vous, mais ça ne veut pas dire ce que vous pensez, parce que vous, vous êtes écœuré de tout, et puis vous avez tout rejeté par-dessus bord. C'est ce que l'on m'a dit chez le coiffeur l'autre jour. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut voir sous tout cela. Alors, c'est ce que Jésus était, il avait ces sentiments-là, quand il voyait les foules, qu'il les entendait, parce qu'il savait les écouter. Il était ému de compassion pour ces brebis qui étaient sans berger. Alors, je ne prétends pas vous avoir tout dit. J'aurais voulu vous parler davantage du sens du mot sacrement, et qui est réellement, et c'est surtout Zwingli qui l'a souligné, un serment, le vrai mot sacrement, c'est un serment, une obligation, un engagement. Que le soldat faisait, je crois que je vous l'ai déjà dit, en jurant sur l'autel, et au fond on a fait du sacrement un acte religieux, n'est-ce pas, ayant pour but la sanctification de celui qui en est l'objet. Alors, quand on est à la Sainte Cène, eh bien oui, c'est un engagement. Et il y a, je m'en vais le souligner, il n'y a pas un renouvellement du sacrifice, mais il y a un renouvellement de mon engagement. En face de quoi? Du sacrifice. En face de ce mémorial qui me rappelle que Jésus s'est engagé pour moi jusqu'où? Jusqu'à la mort. Il y est allé à la mort. Alors, vous voyez, on ne doit pas avoir peur des mots, mais il faut comprendre la signification des mots. Et j'aurais pu vous parler aussi des signes. Je vous ai dit, il y en a un qui m'a dit qu'il voulait faire des études, oui, sur la nuit, les nuits de l'écriture, et puis aussi sur les repas. Mais il m'a dit encore un autre sujet, ça m'a réjoui, sur la joie à travers l'écriture. C'est heureux, hein, que dans cette rencontre, quelqu'un ait compris qu'il voudrait aussi faire une étude sur la joie dans l'écriture. Est-ce que la joie dépend de nos circonstances ou de notre relation avec le Seigneur? Personne ne vous ôte votre joie. Qui est-ce qui a dit ça? Jésus. Hein? Les circonstances ne devraient pas nous enlever notre joie. On peut pleurer et être quand même dans la joie. Personne ne peut vous ôter votre joie. Alors c'est un grand remède contre la déprime. Je reste avec le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Une fois encore, je vous le dis, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Revenez au Seigneur. Dites-lui, tu es ma joie, tu es ma paix. Christ notre paix, Christ notre joie, Christ notre amour. Alors, vous voyez, il y avait le mot signe. Bien, vous pourriez commencer depuis la Genèse. Et qu'est-ce que vous auriez comme premier signe? Le signe qui a été mis sur qui pour le préserver, un criminel? Sur Caïn, le signe de Caïn pour qu'on ne le tue pas. Et puis, vous pourriez continuer, le signe qui a été donné à Noé, qu'est-ce que c'était? L'arc-en-ciel, il y a des signes, n'est-ce pas? Et puis, le signe qui a été donné à Moïse, à Abraham, la circoncision, n'est pas une marque dans la chair. Donc un signe, c'est une marque. Mais il ne faut pas que ce soit seulement une marque. Et puis alors, on pourrait aller plus loin au sujet des signes. Moïse en a eu aussi. Mais Jésus disait, vous savez discerner les signe du ciel. Quand le ciel est rouge, vous dites le soir, il fera beau, etc. Alors, vous voyez, c'est passionnant. Vous pouvez suivre, vous pouvez faire vous-même vos chaînes bibliques. Maintenant, il y a toutes sortes de bibles avec des chaînes. Mais moi, ce qui m'a le plus instruit, quand j'étais malade à l'hôpital, je lisais ma bible. Je n'avais pas des bibles anglaises ou quoi que ce soit, puis je ne savais pas l'anglais. Alors, je faisais mes chaînes moi-même, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi, quand j'ai écrit aux veuves, j'avais 18 ans, et j'avais pris tout ce qui était dit sur les veuves, n'est-ce pas? Parce qu'une veuve était venue à mon chevet pour me dire, toi qui connais un peu ta bible, est-ce qu'il y a des promesses pour les veuves? Alors, c'est une bonne occupation quand on est malade, on fonce mon lit dans l'hôpital. Hein. Alors, j'ai fait ça, puis je n'ai jamais pensé que ça serait publié, puis voilà, un jour, ça a été publié. Voilà, je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais c'est la Bible qui me formait. Alors, que vous puissiez avoir ce goût de la Bible, et vous verrez, vous vous porterez bien. La parole vous fait bien, ça ne veut pas dire que vous ne mourrez pas, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de maladie. Ça ne veut pas dire que si vous passez un feu rouge, vous ne serez pas l'auteur d'un accident. Ce n'est pas parce qu'on lit sa Bible ou qu'on met un texte biblique sur son auto qu'on est préservé. Hein. On n'est pas préservé par un texte biblique collé sur son auto. C'est peut-être même très grave. Parce que le jour où vous faites une infraction, puis qu'on voit Jésus t'aime tel que tu es, puis il est mourant là derrière, et vous avez mis ça devant, quand on me l'a donné, justement, c'était le père Roginval qui m'avait donné ce signe. Il me dit, tu mettras ça sur ton auto. Ma femme n'a pas voulu. Il dit, on ne met pas le nom du Seigneur dans la boue. Bon, et c'est vrai. Mais on veut tellement évangéliser, n'importe quoi, n'importe quel moment. Ou bien il y en a qui naissent derrière, là, puis ils stoppent, puis on leur rentre dedans. Et puis, on passera à toute l'éternité. Des trucs comme ça, hein. Pour les impressionner, on passera à toute l'éternité. Alors, je vous en prie, ayez le respect de la parole de Dieu. Vous comprenez, quand on voit des fois dans une maison, quand on entre, il y a un tas de textes bibliques, puis le ménage ne va pas du tout. Alors, c'est une responsabilité de mettre un texte biblique dans une maison. N'est-ce pas? Je vous promets, il nous faut être vrai, parce qu'on est en train de nous observer. Et j'en ai encore eu la leçon la semaine passée, je vous l'ai dit. On est observé par des gens que on s'imagine pas qu'on nous observe. Alors, un symbole, on aurait pu aussi en parler après les signes, eh bien, un symbole, c'est un objet qui représente une chose abstraite. C'est ce qui est l'image d'une chose, un symbole, mais, ou alors d'une personne. Puis, les éléments, ben, c'est la partie d'un tout. Puis, j'aurais voulu aussi vous parler du baiser de paix et de tous les baisers qu'on peut trouver dans la Bible. Faites une étude sur les baisers. C'est beau. Mais évidemment, hein, on a employé ce mot baiser pour toute autre chose. C'est comme ça dans le monde. Hein. Pour la question sexuelle. Quelle horreur. Bon, eh bien, oui, il y a des baisers. Il y a des baisers sur les lèvres, il y a des baisers sur la joue, il y a des baisers sur la main, il y a des baisers sur les pieds. Tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la Bible. Il y a le baiser de la réconciliation, il y a le baiser du pardon, il y a le baiser d'adieu, dont Paul parle. Il y a toute espèce de baiser, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le baiser de Judas, hein? De la trahison, le baiser de la trahison. On a étudié ça quelquefois dans les camps. Hein. Eh bien oui, c'est passionnant. Il y a tous les sujets dans l'écriture. Alors, nous revenons maintenant à nos questions. On était 9. Donc, on parlait de l'espérance de son retour, jusqu'à ce qu'il vienne. 10. Peut-on voir dans la scène une actualisation ou une représentation du sacrifice de Jésus? Nous avons dit oui, parce que je pense, par exemple, aux Lamentations de Jérémie, au chapitre 1er, verset 12. Il y a cette parole qui m'a souvent bouleversé, qu'on peut entendre et qu'on peut lire des fois dans un culte. « N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin, contemplez et voyez s'il y a une douleur comme ma douleur ?» De qui était-il question, là? Bien sûr, il y avait Jérémie, mais il annonçait quelqu'un d'autre, Jésus. Et on passait devant la croix, tous ces passants qui l'insultaient, qui l'injuriaient, n'est-ce rien pour vous tous qui passez le chemin, qui voyez une douleur comme ma douleur. Bien, quand je prends la scène, je pense à la croix, je pense à Jésus. On ne renouvelle pas le sacrifice, on va le voir tout de suite. Alors, mais on est replacé devant ce qui est pour nous, ce qui nous a apporté la délivrance, la croix du calvaire. Il m'a aimé jusqu'à la mort. Souvenez-vous un peu des cantiques que vous chantez et des paroles que vous prononcez. Et alors, nous passons au numéro 11. Tandis que nous prenons la scène, que fait Jésus ressuscité et glorifié dans le ciel? Eh bien, il intercède pour nous. Et nous l'avons dans Romains, chapitre 8, n'est-ce pas? Jésus intercède pour nous. Romains 8. Et les prières de Jésus, elles sont toujours exaucées. C'est lui qui l'a dit. Père, je sais que tu m'exauces. Toujours. Alors quand on m'a dit, j'ai su qu'on avait interdit qu'on prie pour moi, dans un milieu religieux bien sûr, que celui qui prononcerait mon nom dans cette église, eh bien serait lui-même excommunié, ça va loin, hein, eh bien je me suis dit, bien, il peut m'interdire qu'on prie pour moi, il y en a un qui intercède pour moi, et qui est toujours exaucé, tandis qu'il y a bien des chrétiens, leurs prières ne vont pas plus haut que le plafond. Alors, je dis ça sans jugement, mais... Ce qui compte, c'est que le Seigneur prie pour nous. Et lui, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et c'est ça qu'a gardé Pierre, qui allait pourtant le trahir. Et Jésus savait qu'il allait le renier, avec imprécation. Oui, la sacrée Pierre, imprécation. Eh bien, le Seigneur l'a restauré, parce que Pierre est rentré en lui-même, il a pleuré, amèrement, par un regard du Seigneur. Ah, voyez-vous, c'est son regard qu'il nous faut rencontrer. Vous n'avez pas besoin d'entendre un grand sermon. Si vous pensez à son regard, il me voit. J'ai beaucoup aimé, un jour j'étais à Londres, puis j'ai vu ce texte, qu'on ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. C'est vrai, hein? Quand on a son regard, dans les yeux de Jésus, on ne peut pas pécher. Et il nous garde. Ça m'a impressionné, c'était en 1947, mais je m'en souviens encore. C'était à Saint-Paul que j'avais vu ça. Eh bien, que le Seigneur nous parle de toutes les manières, dans quel que soit le pays où nous trouvions, en voyage. Le Seigneur nous parle dans le train, dans l'auto, où que nous soyons. Alors, ce que nous savons dans Romains 8, qui était un texte que nous avons bien étudié ici aussi, qui intentera des accusations contre les élus de Dieu, verset 33 du chapitre 8, c'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne, le seul qui pourrait nous condamner, c'est qui? C'est Christ, qui était sans péché, mais il est mort, mais plutôt il est ressuscité, et il est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. C'est quand même fantastique. On ne peut pas nous l'enlever, notre Seigneur. On peut tout nous prendre, mais on ne peut pas nous enlever, notre Seigneur. Quand on nous jette dehors, il a dit, et le Seigneur le retrouva dehors. C'est formidable ces versets. Hein? On a jeté dehors l'aveugle né guéri, et le Seigneur le retrouva dehors. Et puis, le Seigneur se révèle à lui d'une façon plus intime encore. et il adore sur la rue. Le Seigneur le retrouve alors. Mais quel est le sens de son intercession perpétuelle pour nous? C'est parce que nous, justement, nous sommes des pécheurs, et Jésus est mort pour des pécheurs, et tant que nous sommes, nous savons par le sang, nous sommes pardonnés de nos péchés, mais comme nous sommes encore dans la chair et qu'il y a le péché dans la chair, il est possible que si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas dans un esprit de prière, que je me laisse surprendre par quelque faute. Alors, est-ce que je perds mon salut? Non, le Seigneur est mort pour ce péché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il présente devant Dieu son sang, et le Père voit le sang qui a été versé pour ce péché, et la communion est rétablie. C'est 1 Jean 1:2. Alors là, vous entrez dans le sens du mot communion, eh bien, mais pour qu'il y ait communion, eh bien, il faut qu'il y ait vraiment aussi confession. Chapitre, premier chapitre de Jean, chapitre 1er, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Vous voyez, l'apôtre Jean partage ce qu'il sait pour qu'on soit en communion avec lui. Or, notre communion est avec qui? Avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite, complète, n'est-ce pas? Voilà, pour l'ami qui veut étudier la joie, le Seigneur veut qu'il ait une joie complète. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Hein? Alors, si nous disons que nous avons communion avec lui, parce que là la grande question, hein? On peut dire qu'on a communion avec lui, mais si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, donc la communion se fait aussi horizontalement, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. N'est-ce pas merveilleux? Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et voyez-vous, je l'ai dit souvent, marcher dans la lumière, c'est marcher dans la pleine clarté de tout ce que Dieu est. Il est amour, il est vérité, il est lumière, il n'y a pas de mensonge en lui, il est saint. Alors, on marche dans cette conscience de la sainteté, de la grandeur, de la puissance de Dieu. On ne doute pas de son amour, on marche dans la lumière. Mais marcher dans la lumière, si je ne savais pas qu'il y a le sang de Christ, ça me conduirait au suicide. Pourquoi? Parce que quand on est dans la lumière, on voit toutes ses tâches. Le jour où je me suis converti, je me croyais bien mauvais. Mais depuis, c'est encore pire. Parce que plus vous avancez dans la lumière, plus vous découvrez l'état misérable, les profondeurs de votre cœur. Et combien c'est faux quand on dit « Oh, mon enfant, il a un bon fond. Hein, » on a toutes ces expressions-là, une bonne nature. Oh, ils sont nés avec une bonne nature, nos petits saints. Et puis, après, tout à coup, ben, on fait des expériences bien douloureuses. Alors, laissons la parole nous instruire. Il n'y a rien de bon dans la chair. L'homme est devenu chair quand il s'est séparé de Dieu. Il n'était plus que chair. Et la chair, elle est sans force. Jésus l'a dit. La chair, elle est faible. Et si vous ne vous souvenez pas de cela, bien vous devrez en faire l'expérience. Et ce n'est pas nécessaire d'expérimenter que la chair est faible. Marchez dans la lumière. Et puis, souvenez-vous que le sang de Christ vous purifie de tout péché. Et alors, chaque fois qu'il y a une pensée d'orgueil, une pensée impure, vous vous en jugez. C'est ça, se juger soi-même. C'est ne pas admettre ce que Jésus n'admet pas. Comprenez-vous? C'est ça, une vie avec Jésus. C'est laisser Jésus en soi. Ce n'est plus moi, dit saint Paul, qui vit. Galates 2. Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est des versets clés qui doivent être fixés dans votre sensibilité. Alors, pour bien revenir sur les textes bibliques, quel est le sens de son intercession pour nous? Il vous faudrait lire plusieurs chapitres dans l'Épître aux Hébreux, et j'en dirai quelques-uns. Au chapitre 7 des Hébreux, par exemple, où il est parlé de, au verset 11, « Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, donc de l'ancienne alliance, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il encore d'un autre sacrificateur qui se leva selon l'ordre de Melchisédek et qui ne fut pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Car la sacrificature étant changée, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses ont été dites appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur a surgi de Judas, tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Et cela est encore bien plus évident si, à la ressemblance de Melchisédek, c'était l'homme qui était venu au devant d'Abraham dans le chapitre 14 de la Genèse, un autre sacrificateur se lève qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel. De qui est-il question là? C'est Jésus, hein? Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc il n'y en a plus qu'un sacrificateur, il ne peut pas être changé. Quand on vous dit qu'il y en a un qui va paraître et qui s'appelle Jésus, qui est déjà sur la terre, c'est faux. Il n'y en a qu'un de sacrificateur. Et il vit selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui a été rendu, tu es souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, pour l'éternité. Puis il est parlé ensuite de la meilleure espérance. Et puis, le résultat de cette sacrificature et de cette alliance, verset 22, c'est d'une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait le garant. Ça, c'est la nouvelle alliance. Hein. Et ceux qui étaient plusieurs sacrificateurs, parce que la mort les empêchait de demeurer, et ceux-là étaient plus... étaient plusieurs sacrificateurs parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, a la sacrificature qui ne se transmet pas. Donc il n'y a pas de transmission. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. De là vient qu'il peut sauver entièrement, parfaitement, mais c'est entièrement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder pour eux. Car un tel sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qui n'est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Quand les prêtres se confessent, ils nous le disent eux-mêmes, même le pape a son confesseur. Si c'est les hommes qui pardonnent, eh bien, comme ils sont des pécheurs aussi, ils doivent se demander pardon, on n'en finit pas. Mais en Jésus, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, car cela, il l'a fait une fois pour toutes. Alors, vous pourriez aussi faire une étude sur ces termes, une fois pour toutes. S'étant offert lui-même, car la loi établit pour souverain sacrificateur des hommes qui sont dans l'infirmité, mais la parole du serment qui est après la loi établit un fils qui est consommé pour les éternité. Puis vous pouvez continuer de lire, mais je lis maintenant dans le chapitre 9, au verset 11e, le Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption temporaire. Bon, vous n'avez pas révisé. Bon. Une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une jeunisse, avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souliers, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Et voyez-vous quelle délivrance. Vous voulez faire des bonnes œuvres. Eh bien, toutes les œuvres que le Seigneur vous a pas demandées, ce sont des œuvres mortes. Même si elles sont bonnes, hein, ce sont des œuvres mortes. Il ne vous a pas demandé de faire ça. Il avait préparé pour vous des bonnes œuvres pour que vous les pratiquiez. Mais on cherche toujours des œuvres, nous. Tout en disant qu'on est sauvé par la foi. Mais si vous êtes sauvé par la foi, c'est pour lui obéir. La foi, c'est une obéissance. Et puis, maintenant, je demande au Seigneur, donne-moi de discerner ce que tu attends de moi. Et Dieu ne me demande pas des choses que je ne suis pas capable de faire ou qu'il ne veut pas faire par moi. Alors, c'est une grande délivrance. Il y a des choses que je ne ferai pas. Et je n'ai pas à imiter les autres. Alors, combien plus l'Esprit, par l'Esprit éternel, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions, donc pour la rémission des péchés, qui étaient tous sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Et puis, plus loin, il est dit au verset 22e, presque toutes choses sont purifiées par du sang selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Donc, il n'y a pas de possibilité de salut en dehors du sang du Christ. Il était donc nécessaire que les images, alors dans l'Ancien Testament, c'était des images, des choses qui sont dans les cieux, fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes fussent le plus par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, copie de vrai, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est quand même fantastique. Il paraît pour nous devant la face de Dieu. Il a tout accompli sur la croix. Il nous a pris, nous, les pécheurs, il a pris nos péchés. Et Dieu, quand il l'a vu sur la croix avec nos péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné sa face de son Fils. Il portait tous nos péchés. Et Dieu, même quand les péchés sont sur la vie absolument sainte de son Fils, il n'y avait pas de péché en lui, eh bien Dieu n'a pas passé sur le péché quand le péché était sur son Fils. Lui n'avait pas commis de péché, il était sans péché. Eh bien, Dieu a frappé son Fils. Il a été fait péché pour nous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On sait maintenant ce que ça veut dire. Hein. C'était parce que moi j'y étais et que je méritais la condamnation éternelle. Et voilà que maintenant, le sacrifice de Christ a tellement plu à Dieu que Jésus ait pu donner cette vie exemplaire, cette vie sans tâche, que maintenant Dieu est tellement satisfait qu'il reçoit ceux qui acceptent le Christ comme lui-même. Le Père nous accepte comme il a accepté son Fils. Dieu ne nous voit plus que dans les perfections de son Fils. Est-ce que vous le croyez? Si vous vous regardez, vous êtes découragé. Si vous le regardez, lui, vous êtes transformé à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et vous me diriez que la prédication ne peut pas nous sortir de toute notre misère et de notre culpabilité. C'est vrai que nous sommes coupables, mais nous avons un grand sauveur. et de son souvenir semaine après semaine. Il y a un renouvellement extraordinaire. Et il renouvelle notre jeunesse, comme celle de l'aigle, même si les cheveux ont blanchi. Il renouvelle notre jeunesse. Il nous garde un cœur jeune dans le Seigneur. Et il voudrait que nous ayons sur nos lèvres de la louange pour tout ce qu'il est. Et dire que Dieu nous abandonne, que Dieu nous cache sa face, ce n'est pas vrai. C'est Satan qui vous dit ça. Dieu ne nous cache pas sa face. Il a caché sa face à son Fils sur la croix. Mais maintenant, il nous voit. C'est nous qui détournons le visage et qui ne voyons pas sa face. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Deux Chroniques, chapitre 11. Il parcourt toute la terre pour se montrer fort à l'égard de celui qui a un cœur tout entier à lui. C'est ça la pureté du cœur. Un cœur tout entier à lui, il voit Dieu. Dieu dans sa vie se manifeste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve, parce que Jésus nous a dit que nous ne pouvions pas être plus grands que notre mère. Alors vous connaissez maintenant l'intercession du Christ. Que fait-il? C'est une intercession perpétuelle. Alors quand je prends la scène, je me dis bien encore aujourd'hui, le Seigneur, dans la gloire, paraît pour moi devant la face de Dieu. Et ça me donne comme une flèche, toi maintenant, tu es sur la terre pour paraître devant la face des hommes. Lui se tient pour moi devant Dieu, et moi j'ai à me tenir pour lui devant les hommes. Alors, qui est-ce que je dois refléter? Le Seigneur. Hein? Lui est pour nous devant Dieu, j'ai la paix, et puis maintenant, pour le reste, c'est à moi de marcher dans l'empreinte de ces pas. Alors, on arrive à la 13e question. Que veut dire s'éprouver soi-même? Eh bien, c'est se juger soi-même. Justement, vous savez bien, vous avez le Saint-Esprit en vous, et si vous dites des paroles grossières, vous êtes repris. Le Seigneur n'avait pas des paroles grossières. Alors, je peux en avoir, je peux m'énerver, je peux avoir tout cela, je peux avoir d'autres sentiments que ceux du Christ, mais alors, je suis averti, parce qu'il m'habite, et il est contristé, il est parlé du Saint-Esprit qui est contristé, c'est pas d'en avoir une plus grande mesure, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place, et faire vraiment le vide de tout ce que le Seigneur n'approuve pas. J'ai des tendances naturelles, hein, c'est vrai. Mais si je ne me juge pas de mes tendances naturelles, quand on dit « Oh ben c'est la nature que je voulais, j'avais cette nature, puis ma grand-mère c'était pire, j'ai tout hérité de ça. » Comme on nous parle tout le temps de l'hérédité, mais vous n'êtes pas né de nouveau, alors où est votre hérédité? Au cimetière. Voyez ça dans la mort. Alors, n'est-ce pas, maintenant, il y a la psychologie, il y a tout ce qu'on veut. Alors, donc, on s'écarte de la simplicité de l'écriture. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes des hommes, nous. Le vieil homme a été crucifié. Tenons-le dans la mort, n'allons pas dépouiller ses vêtements et les revêtir. Voilà, je suis le nouvel homme, mais je suis vêtu de tous les vêtements du vieil homme. J'ai repris toutes les habitudes du vieil homme. Alors, c'est navrant. Hein? C'est navrant. Il y a opposition entre l'homme et ses habits. On avait des habitudes avant, mais on s'en est dépouillé. Et puis maintenant, on a revêtu les habits du nouvel homme, et si vous voulez connaître même les sous-vêtements du nouvel homme, lisez le chapitre 3 des Colossiens. Et vous trouverez les sous-vêtements, puis par-dessus, que vous, par-dessus tout le, et puis par-dessus tout l'amour qui est le lien de la perfection. Mais ne le mettez pas seulement le dimanche, quand vous allez au culte. Alors, on veut se manifester quand même un peu d'amour, mais c'est tous les jours. Parce que quand on laisse le manteau de l'amour dans l'armoire, il se mite. Les habits qui ne s'usent pas, c'est ceux qu'on porte. C'est vrai ou c'est faux? Tes habits ne se sont point usés sur toi. Arrêtez le Seigneur. C'est une étude sur les vêtements à travers l'écriture. Chapitre 8 de Deutéronome. du Deutéronome. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi pendant 40 ans dans le désert. Tes habits qui se comportent depuis 40 ans, ça devrait être usé. Hein. Et puis ton pied ne s'est pas enflé. Des chaussures, des sandales. Dans le désert, ton pied ne s'est pas enflé. Mais portez vos chaussures, mais que ce soit les chaussures de la paix. Il y a des chaussures de paix, mais ne soyez pas de ceux qui vont de droite à gauche pour semer la zizanie. Vos pieds ne sont pas chaussés de la paix. Apportons la paix. Marchons dans la paix. N'ayons pas vraiment ce désir d'avoir toujours raison. Dites, Seigneur, que toi tu aies raison de nous. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas que moi j'ai raison qui compte, c'est que lui ait raison de nous. Et alors il y a la paix entre nous. Alors voilà, il faut s'éprouver soi-même, je n'en dis pas plus long. Vous avez maintenant le texte, c'est dans la première aux Corinthiens, quand il ne nous dit pas que nous ne devons pas nous approcher de sa table, mais il faut nous éprouver nous-mêmes et nous juger sur un point ou sur un autre. Et c'est ce que Jésus a montré à ses disciples en leur lavant les pieds. Avant la scène, il y a eu le lavage des pieds. Et il leur dit bien que quand Pierre ne voulait pas se laisser laver, non, il n'a pas dit au Seigneur, mais moi je vais continuer le travail, non. Et il dit, tu me laveras jamais les pieds. Et puis Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Si, parce que vous voyez, à la table du Seigneur, on a une part avec le Seigneur. Mais il faut qu'on se laisse laver les pieds, il faut qu'on se laisse juger. Et c'est le Seigneur qui nous juge, n'est-ce pas? On se juge devant le Seigneur et il n'emploie pas d'eau bouillante pour nous laver les pieds. Voyez-le, il est plus humain que ça. Mais nous, quand nous voulons laver les pieds de nos frères, nous employons souvent de l'eau bouillante, au lieu de leur laver les pieds, on leur lave la tête. Ça fait l'effet contraire. Et on n'a pas gagné son frère. Mais quand on se met aux pieds de son frère, eh bien, c'est la bonne méthode. Jésus nous a enseigné ces choses. Il faut que ça devienne vivant pour nous. Alors, c'est lui qui a fait le service. Je vous ai donné un exemple, afin que, comme moi j'ai fait, vous fassiez aussi. Et alors, on se pose la question, s'il y a une discipline à la table sainte. Et puis, on voudrait peut-être savoir aussi un peu ce qu'est cette table sainte. C'est dans quel chapitre qu'on trouve la table du Seigneur? C'est dans le chapitre 10. Alors, revenez toujours, je ne peux vous donner que quelques indications, mais revenez toujours à l'Écriture, au chapitre 10. Il y a tout l'enseignement sur cette table du Seigneur qui est mis en opposition avec la table des démons. Mais il dit au verset 15, je parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. 1 Corinthiens 10, verset 15. La coupe de bénédiction. Est-ce que c'est une coupe de bénédiction quand on prend la coupe? Oui. Donc vous devez savoir que vous pouvez être béni. Si vous buvez à la coupe de bénédiction, vous pouvez recevoir une bénédiction. Quand vous me demandez, est-ce qu'il se passe quelque chose à la table du Seigneur? Si vous prenez une coupe de bénédiction, il y a une bénédiction. Si vous lisez le chapitre 1er des Éphésiens, qu'est-ce qu'il est dit? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est pas la coupe de la colère qu'on prend, c'est la coupe de bénédiction. Parce que la coupe de la colère, qu'est-ce qu'il a bu? Jésus, où? À Gethsémané, à la croix, n'est-ce pas? Il a accepté à Gethsémané de boire la coupe de la colère et il l'a vidée jusqu'à la lie. Elle est vide pour nous. Et en revanche, il nous donne la coupe de bénédiction. Cette coupe de bénédiction que nous bénissons, que nous élevons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Vous confessez bien, réellement j'ai communion. Le sang de Christ a été répandu pour moi. Ce n'est pas un renouvellement, mais c'est une actualisation. Je me rends compte à nouveau que le Seigneur m'a aimé et qu'il a donné son sang, qu'il a donné sa vie, il s'est donné tout entièrement. Et puis, le pain que nous rompons, le pain rompu, c'était sa chair meurtrie. Eh bien, le pain que nous rompons, n'est-il pas notre communion du corps du Christ? Il y a donc une participation Et ce n'est pas simplement manger un morceau de pain, mais par-delà les éléments, nous trouvons la personne du Seigneur. Et puis, car nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain. C'est pour ça qu'on ne peut pas communier simplement individuellement. Moi, je ne m'occupe pas des autres. C'est pourquoi il y a une communion horizontale. On communie ensemble comme il y a plusieurs grains. Maintenant, c'est un seul pain, nous sommes plusieurs. Il y a un seul corps. Et nous participons tous à un seul et même pain. Et puis, il y a toutes les explications. Et ensuite, il est parlé alors qu'on ne peut pas avoir boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons, à la table du Seigneur et à la table des démons. Eh bien, la table des démons, qui est-ce qu'il a dressé? C'est Satan. Et où est-elle? Dans le monde. Et c'est là que les gens du monde, qui ne sont pas régénérés, vont s'asseoir. Hein? On s'asseye à la table des démons. Mais eux ne pensent pas que c'est des démons, non. Ce sont leurs idoles. Hein? Ils adorent. Maintenant, le mot adorer, vous l'entendez partout. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Ils adorent ceci, ils adorent cela. C'est des idoles? Oui. Alors, chassez ces idoles. Vous ne pouvez pas, dans les jours ouvrables, vous asseoir à la table où préside Satan, qui est le prince de ce monde, puis qui n'a pas des cornes, ni des pieds fourchus, comme on vous l'a présenté. Il est un très beau personnage. Vous savez, il est attrayant, Satan. C'est un beau mâle. Il a le visage que le monde aime. Il faudrait que nos jeunes puissent le comprendre. Jésus, il n'y avait pas d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Mais Satan a tous les attraits, alors il a tous les fonds possibles. Mais Jésus, ce qu'il veut, ce n'est pas des fonds. Jésus, ce qu'il veut, c'est des disciples. Et le mot disciple veut dire témoin. Et le mot témoin veut dire martyr. Et, voyez-vous, ce qui me touchait en repassant tout cela dans mon cœur, je disais, les premiers chrétiens, ils préféraient mourir que de ne pas prendre la scène. Parce que pour eux, c'était quelque chose, prendre la scène. Et quand on leur interdisait de communier, de prendre la scène, à cause des persécutions, ils préféraient mourir que s'abstenir de prendre la scène. C'est quelque chose. Hein. Alors nous, on a toutes les explications possibles. Pour l'approche de moi est souvent possible. Alors, c'est pas étonnant que nos églises sont en ruine. Dans la misère. Parce que, mais pourtant, tout est là. Et je sais que Dieu, lui, il voit son église parfaite. Et je veux la voir du haut du ciel. Alors, je ne suis pas pessimiste. Parce que je sais qu'un jour, elle sera conforme à lui. Et il la présentera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable. Mais si je regarde ce qui se passe dans le monde, je vois l'église divisée, une église qui marche dans un désert, s'appuyant sur son bien-aimé. Mais qu'elle s'appuie davantage, qu'elle marche avec lui. Alors, la table du Seigneur, c'est pas nous qui l'aurions, nous avons nous la table du Seigneur, les autres, mais eux, ils ont la table des démons, etc., puis il faut pas aller avec les autres, etc., c'est pas de ça qu'il est question. La table du Seigneur, alors j'ai écrit cela dans ce petit bouquin, je vous ai dit qu'il pouvait peut-être vous aider, il est parlé de la table du Seigneur, et de la scène, parce qu'il y a une différence entre la table du Seigneur et la scène, et puis l'unité, et je ne vais pas vous en parler, sur quel terrain peut-on trouver la table du Seigneur, et je crois vraiment que c'est sur le terrain du calvaire, parce que la table du Seigneur nous rappelle la croix. Et quand on est sur le terrain du calvaire, non pas sur un terrain religieux qui a un nom d'abord, mais ou sur une, on se réunit au nom d'une vérité, on se réunit autour du Seigneur. C'est une personne qui nous rassemble. Et c'est cela que je dois comprendre. C'est ton nom qui me rassemble. Si je suis avec vous, c'est parce que je connais le Seigneur, vous connaissez le Seigneur, nous sommes mis ensemble par le Seigneur. Christ est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Et c'est Caïphe qui a fait cette prophétie, sans le savoir. Caïphe qui a condamné le Seigneur et qui a dit « Il est préférable qu'un seul meure pour la nation plutôt que tout soit perdu. » Eh bien oui, il prophétisait que Jésus devait mourir pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. C'est dans le souvenir de sa mort qu'est manifestée l'unité du corps de Christ. Et dans le chapitre 10, justement, de la première Corinthienne, c'est la manifestation du corps de Christ. Alors, évidemment, on ne peut pas aller à la table du monde et puis à la table du Seigneur. Il y a une séparation. Pour ceux qui veulent vivre avec le Seigneur, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses dont on doit se séparer. Il y a des choses auxquelles on doit dire non. Joseph a dit non à la femme de Potiphar. Et pourtant, il pouvait être tenté. Il était un jeune homme, il pouvait penser que Dieu l'avait abandonné, il aurait eu toutes les excuses possibles. Mais il dit, comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Et pourtant, il n'y avait pas encore la connaissance de la loi. Les 10 commandements n'étaient pas encore donnés. Hein. Mais il savait que c'était mal, on ne prend pas la femme d'un autre. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. Vous me direz, vous n'êtes pas de notre temps. Je suis un attardé, peut-être. C'est aucune importance. Je veux rester avec mon Seigneur. Alors, y a-t-il une discipline à la table du Seigneur? Bien, si on se réunit ensemble autour du Seigneur, eh bien, bien sûr, nous avons à veiller les uns sur les autres, non pas à questionner toujours les autres, ou à juger les autres, à avoir un esprit de jugement, mais si on veut s'approcher de la table du Seigneur, dans l'Église primitive, et on aurait plusieurs exemples, au cours de la vie de l'Église, on voit cette discipline exercée. Il n'y a qu'à lire les confessions de foi, où on examinait justement ceux qui voulaient s'approcher de la table du Seigneur, commémorer sa mort, il fallait qu'il confesse le Seigneur. C'est comme pour le baptême, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Mais évidemment, tout a dégénéré. Alors maintenant on a baptisé tout le monde, baptême des enfants, et puis, je ne vais pas entrer dans ces discussions, mais c'est comme si, est-ce que c'est l'eau du baptême qui vous enlève vos péchés? Même on demande qu'on ne chante plus à Noël le fameux minuit chrétien. Pour quelle raison? Parce qu'il est parlé de la tâche originelle. Et comme on n'y croit plus, n'est-ce pas? Eh bien, non, ça n'existe plus. Même dans l'Église romaine, on n'en veut plus. La tâche originelle, non. Et puis, devant le péché, ça n'existe plus. Bon. Alors, voyez-vous, est-ce que c'est l'eau du baptême qui vous purifie? Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est un sacrement. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est un engagement. Prenez 1 Pierre 3, n'est-ce pas? L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Évidemment, un petit enfant ne peut pas s'engager. Et bien souvent, moi j'ai vu des prêtres qui ont pleurer, qui m'ont dit, mais travaille pour que ça change aussi. Même que ce soit les grands responsables d'église, parce que si nous disons à quelqu'un qu'on n'a jamais vu à l'église, tout d'un coup ils viennent avec le petit bébé, puis on dit, mais non, pourquoi est-ce que vous venez vous voulez nous refuser le baptême à notre enfant? Mais on ne vous voit jamais, pourquoi est-ce que vous voulez le baptiser? Ah, ben vous aurez de nos nouvelles, puis pas. Furieux, téléphone à l'évêque, puis on déplace le prêtre. Parce qu'il a simplement voulu peut-être leur montrer que ça devrait avoir un sens. J'ai vu des sœurs de l'église romaine qui m'ont dit, on vous en supplie, continuez ce travail pour faire tomber ce folklore qui est devenu le baptême, l'histoire des dragées, des beaux petits vêtements, etc. Puis la première communion, ben, évidemment, il y a la ratification du vœu du baptême, parce que on se dit qu'à un certain âge, il faut quand même qu'il ratifie le vœu du baptême, puisque c'est pas l'enfant qui a fait le baptême, hein, qui a pris l'engagement. C'est les parents, et puis ce serait pas mal que les parents s'engagent à élever leur enfant dans la foi chrétienne. Et puis que les parrains et marraines, mais les parrains et marraines, où est-ce que c'est dans l'écriture? Comprenez-vous? C'est plutôt quelqu'un qui a certains moyens pour donner des cadeaux à nos petits. N'est-ce pas? En soi-disant, c'est en cas de mort. Il continuera d'élever les enfants dans la foi chrétienne, nos enfants. Tout ça, eh bien, bon. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais moi j'ai vu des gens qui souffraient, qui sont dans un système, et qui disent on est lié par le système, puis c'est aussi une histoire de job pour finir, parce que il y en a un qui m'a dit, mais tu comprends, s'il m'arrivait, si c'est arrivé, qu'on m'excommunie, je mourrais. Et il est quand même mort. Je vous dis, on meurt quand même. Et puis, même si on nous met dehors, c'est pas toujours la mort. Le Seigneur nous ravive. Mais il faut accepter la croix. Alors, je ne crois pas qu'une table peut être dressée sur le terrain du multitudinisme, c'est-à-dire tout le monde peut y venir, n'importe qui peut y venir. Non, il y a une discipline. Si vous voulez vous rappeler de la mort du Seigneur, il faut que vous l'ayez accepté pour vous-même et que vous marchiez dans le sentier du Seigneur. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, vous apportez une souillure à la table du Seigneur, et c'est toute l'Église qui est souillée. Et quand on va dans une Église où il y a du trouble, où il y a du péché qui n'a pas été jugé, on le sent. L'esprit, il est contristé, il est attristé. On ne sent pas de liberté, on n'a pas vraiment la joie. Il y a une discipline à la table sainte. Alors, le fait de communier, peut-il attirer sur nous une bénédiction ou un jugement? Lisez la fin de ce chapitre, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il peut y avoir un jugement si nous ne nous sommes pas jugés nous-mêmes. Et c'est pas Dieu qui voudrait nous juger, mais il voudrait que nous nous jugions nous-mêmes et nous ne serions pas jugés. Et alors, si je ne veux pas me juger, eh bien, Dieu doit peut-être permettre une épreuve qui m'amènera à m'humilier et à me juger. Mais, alors, est-ce qu'il y a une bénédiction? C'est la coupe des bénédictions. Je suis renouvelé parce que j'ai été remis en présence du seul sacrifice qui ne peut pas, lui, se renouveler, mais qui est fait une fois pour toutes. Alors, dans quelles conditions le croyant, que veut dire discerner le corps du Christ? Eh bien, c'est par-delà les éléments, je discerne que le corps et le sang du Seigneur qui ont été offerts pour moi, mais en même temps, je discerne que nous ne sommes plus des individus isolés, mais que nous sommes des frères et des sœurs. Le corps de Christ, je le vois à la table du Seigneur, nous partageons le même pain, de sorte que vos peines, vos souffrances deviennent mes peines et mes souffrances. Si un membre du corps souffre, tous les autres souffrent. J'apprends en discernant le corps à voir tous mes frères, et pas seulement ceux qui sont dans la salle, mais dans la communion de l'Église universelle, nous embrassons dans nos cœurs tous les enfants de Dieu, où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur étiquette. Il y en a dans l'Église romaine, il y en a dans toutes les confessions évangélique ou dans le protestantisme, dans l'Église orthodoxe, Dieu lui connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas à nous de juger. Mais si nous sommes dans une communauté locale, il y a une discipline qui doit alors se manifester. Mais sinon, eh bien, c'est le Seigneur qui intervient. Discerner le corps de Christ, il y aurait beaucoup de choses à dire. Dans quelles conditions le croyant doit-il s'approcher de la table du Seigneur? Bien, dans le jugement de lui-même, mais il ne doit pas se dire « je suis indigne ». Mais c'est justement quand tu te sens indigne que tu peux t'approcher. Mais parce que quand tu te sens indigne, tu as recours au Seigneur. Et tu regardes à son sang, mais ce n'est pas tes sentiments qui doivent t'empêcher. C'est Satan qui cherche à nous empêcher, parce qu'il ne voudrait pas qu'on se souvienne de son Non. Il ne veut pas qu'il y ait la Sainte Seine. Non, parce que s'il y avait vraiment cela d'une façon vivante, l'Église serait réveillée, puissante, et on n'aurait pas besoin de faire toujours des appels d'argent pour l'évangélisation. L'évangélisation se ferait connaître. La communion peut-elle être seulement verticale ou doit-elle être aussi horizontale? C'est les deux, n'est-ce pas? On est en communion avec le Seigneur, mais je ne peux pas être en communion avec le Seigneur et ne pas être en communion avec ceux avec qui le Seigneur est en communion. Comprenez-vous? C'est ce que je disais, on ne peut pas être avoir l'uniformité de vue, on a l'identité de vie. On a peut-être des vues différentes parce qu'on n'a pas tous le même degré de connaissance, n'est-ce pas? Mais pourtant, on a la vie. Et ce qui compte, c'est la vie. Alors, Judas a-t-il participé à la table du Seigneur? Non. Nous ne le pensons pas d'après les évangiles parce que Luc ne fait pas une chronologie des événements, mais il nous cite tout ce qui s'est passé. Mais d'après les autres évangiles, Judas est sorti. Et c'est cela qui compte. Mais ceux qui ont voulu toujours prétendre que Judas avait communié, c'est ceux qui ne veulent pas de discipline. Tout le monde peut le faire. Hein. On dit même Judas l'a fait. Ceux qui ne connaissent pas les Écritures, ils n'ont pas sondé les Écritures. On ne peut pas isoler un verset dans Luc, parce qu'il faut voir ce qui est dit ailleurs. Alors, où trouver la présence réelle du Seigneur? Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis... là, au milieu de... Il n'y a rien de magique qui se passe. Peut-on considérer que la communion à la table du Seigneur devrait être une fête? À vous de répondre. C'est 1 Corinthiens, chapitre 5. Hein. Nous célébrons la fête. Il faudrait que ça redevienne une fête, qu'on se réjouisse. Notre participation à la table du Seigneur a-t-elle un effet sanctifiant dans nos vies? Oui. Bon, je vous donne simplement ce témoignage. Ça a été une puissance qui m'a gardé. Parce que je ne voulais pas amener une figure à la table du Seigneur. Les difficultés chronologiques au sujet des événements rapportés dans les évangiles ont-elles une grande importance?
Non.
N'est-ce pas? Les faits sont les faits. Ce n'est pas nécessaire qu'on ait des dates absolument précises, le 13 ou le 14 ou le 15 de Nisan, mais c'est un repas pascal, c'est à la suite d'un repas pascal que le Seigneur a institué ces signes. Il a pris les éléments qui étaient sur la table, n'est-ce pas? Ce n'est pas des éléments particuliers, c'était le pain et le vin. Et puis... maintenant, nous savons bien, comme je le disais, que ce n'est pas le jour de Noël qui a été choisi par les hommes pour rappeler la naissance du Seigneur, que Jésus est né, mais ça ne nous empêche pas de croire à la naissance de Jésus. Y a-t-il une raison plausible pour laquelle l'apôtre Jean n'a pas rapporté l'institution de la scène dans le dernier repas qu'il a pris avec Jésus et les disciples? On a vu que dans le chapitre 6 de Jean, on pourrait y voir une image de la scène, mais que tout cela, c'était quand même l'annonce d'abord de sa mort, mais à la scène, on se rappelle sa mort. Mais pourquoi? Eh bien, beaucoup pensent que Jean, ayant écrit en l'an à la fin du siècle, où il y avait vraiment les persécutions, et il y avait des calomnies terribles qu'on racontait sur ses disciples, sur ce qui se faisait dans les catacombes, comme si on mangeait la chair des enfants, ou des trucs comme ça. Et Jean, sachant bien que la Sainte Seine était bien établie dans les églises, n'a pas trouvé bon à ce moment-là de raconter l'institution. Mais est-ce qu'il y était à cette institution? Bien sûr, mais j'ai été à bien des choses et puis je n'ai pas besoin de tout dire. Toutes les choses sont déjà bien connues. Les trois évangiles l'avaient mentionné et puis l'apôtre Paul disait qu'il avait reçu du Seigneur ce qu'il avait enseigné et alors, eh bien, c'était connu de sorte que ce n'est pas un obstacle pour nous. Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu nous accordes la grâce de terminer cette journée dans la paix.